Française, Français, le général de Gaulle est mort.
Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre « La France pleure de Gaulle » aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïca Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. De très nombreuses lettres témoignent du rôle essentiel qu'a joué le général de Gaulle de son vivant et l'inscription de son action dans le temps. Pour leurs auteurs, il appartient déjà à l'histoire.
Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'il a fait, mais l'admire beaucoup. Je suis persuadée que l'histoire universelle lui donnera une place au tout premier rang avec César et Napoléon.
Le fait le plus marquant pour moi se situe en 1961. Je servais en Algérie au 27e Dragon lorsqu'éclata le putsch militaire. Dans la nuit du 21 au 22 avril, nous étions partis en grand nombre avec des jeeps automitrailleuses, chars, sous les ordres du lieutenant-colonel Pouga. À Alger, nous avions vite compris qu'il s'agissait d'un coup d'État, et devant les discours de nos chefs, le contingent était déjà réticent. À l'appel du général de Gaulle, le contingent se révoltait, et ce fut la panique. Je fus arrêté par des officiers du 1er régiment d'étrangers parachutistes. J'ai eu très peur cette fois-ci. Je fus relâché. Le contingent continuait son action. Des croix de Lorraine étaient répandues un peu partout sur les véhicules militaires et ce fut l'échec des généraux. Le chef de l'État fit preuve d'une autorité exemplaire.
Maurassien depuis mon adolescence, je me suis lâchement, avec des millions de braves Français réfugiés dans mon humble devoir d'État et derrière le bouclier de Pétain. J'ai été le non-inscrit, jusqu'au discours de Bayeux qui m'a révélé le géant politique qu'était votre mari. Cela va faire donc bientôt un quart de siècle que je le suis. J'ai bien sûr regretté amèrement aussi l'Algérie, mais vite compris qu'il n'y avait hélas rien d'autre à faire. Nul autre que de Gaulle ne pouvait faire cela, comme aussi de nous séparer d'un empire également invivable et devenu injustifiable, de le libérer lui aussi.
La mort du général de Gaulle me cause une tristesse infinie. Depuis le 18 juin 1940, il incarnait pour nous la France. Il nous avait redonné l'espoir. Pendant 30 années, je n'ai jamais cessé d'avoir en lui une foi complète. Je lui garde une reconnaissance immense, qui n'a d'égal que mon admiration. Permettez-moi d'unir mes prières et mes larmes aux vôtres.
Permettez à une maman de France qui a perdu un fils de 22 ans, engagé volontaire en Indochine, de vous dire que nous pleurons avec vous la mort du général, qui était pour nous l'incarnation de la France grande et généreuse. Sans son appel du 18 juin, que serait devenu notre pays ? Et où serions-nous ? Soyez assurée, madame, que nous sommes en pensée et en prière bien près de vous et vous prions de croire à toute notre sympathie et à notre fidèle, inaltérable reconnaissance.
De la disparition du général, notre chagrin est grand. Aussi grand qu'était notre morale et notre joie lorsque nous le sentions près de nous, cet homme qui a fait la grandeur de la France et que nous n'oublierons jamais.
C'est un grand Français et un homme de cœur que Dieu a rappelé à lui. C'est grâce au général que nous avons une France libre qui a retrouvé son honneur et son rang parmi les nations. Je n'oublierai jamais l'appel du 18 juin, lequel nous a redonné l'espoir et la confiance en nous-mêmes pour la libération de notre pays. En ces jours de deuil, union de prière pour notre libérateur. Qu'il repose en paix par la miséricorde divine.
À l'heure où nous apprenons avec tristesse la mort du général de Gaulle, nous voudrions vous apporter aussi le témoignage des humbles, des petits, des inconnus de cette terre, après le cœur des voix des grands hommes qui se sont unanimement levés à sa gloire. Au-delà de toute grandeur, de sa valeur politique, qui a fait de lui une des figures les plus représentatives de notre temps, nous l'avons beaucoup aimé, par cette ferveur et cette vision spirituelle qu'il mettait dans chaque acte de sa vie, conçu comme une sorte d'apostolat politique au service des hommes, non pas de sa patrie seulement. S'incliner à sa mémoire, c'est s'incliner au nom de la juste cause de l'humanité qu'il a incarnée pendant longtemps, et pour demain encore, devant la scène du monde politiquement déchiré.
Je me sens pris au cœur. Aussi, c'est pourquoi je m'empresse de venir vous exprimer mes sincères condoléances pour le grand deuil qui vous frappe en perdant le grand être le plus cher au monde. Mon état de faiblesse me fait craindre de ne plus pouvoir me rendre comme tous les ans à votre permanence rue de Solferino, y verser ma cotisation annuelle. Espérant, si Dieu le veut, me rendre un jour en pèlerinage à Colombelles et deux églises en vue de rendre un dernier pieux hommage à notre grand chef, le général de Gaulle, que nous aimions tant. P.S. Je m'apprêtais à lui écrire pour son anniversaire.
En plus de la disparition soudaine du général, une pensée m'a beaucoup chagriné. Je pense à la solitude du général depuis 1968. Quelle fin pour cet homme qui avait donné sa vie pour la France. Quelles étaient ses impressions profondes lorsqu'il se retrouvait seul dans son bureau. Peut-être était-il beaucoup plus triste qu'il le disait.
Pour la cathédrale de Mexico où j'ai vu le général de Gaulle pour la dernière fois, j'étais à vos côtés. Nous avions communié ensemble. Dans des fonctions officielles, je n'étais pas arrivée à vous exprimer mes sentiments profonds. Aujourd'hui, une Française parmi tant d'autres, le cœur en deuil, voudrait vous dire son respect affectueux. Depuis 30 ans, le général et vous-même incarnez à nos yeux la France que nous aimons, notre honneur, notre fierté, l'espoir. La disparition du général n'enlèvera pas des cœurs ce qu'il a enraciné et que nous transmettrons à nos enfants.
Le général avait l'âme poétique et tout en étant réaliste, était quelque peu romantique, ce qui, en tant qu'artiste, me plaisait beaucoup en lui. Il aimait sa demeure, où de son cabinet de travail il pouvait contempler les grandes plaines verdoyantes et étendues lointaines au couchant, ainsi que le ciel immense. D'un côté, à l'horizon, la terre avec ses limites, et de toutes parts, le ciel, avec ce qu'il représente d'infini.
Nous sommes trop âgés pour aller à Colombey nous recueillir sur la tombe du général. C'est pourquoi je pris ces quelques lignes de vous assurer de la part que nous prenons à votre chagrin. Le général fut pour nous, quand nous étions à Paris en activité, la lueur d'espoir qui fut notre force. Il nous a rendu l'honneur et la liberté, et de cela, toute notre vie, nous lui serons reconnaissants.
Bien qu'ouvrier, je ne sais comment exprimer ma profonde émotion, mon profond chagrin. D'ailleurs, j'en suis ébranlé en quasi-totalité. C'était un homme irremplaçable, Pour reprendre la parole récente du président Nixon, c'était un géant. Madame Charles de Gaulle et votre famille, sous votre permission, je tiens à me rendre à Colombey-les-Deux-Églises, non pas pour vous déranger à la boisserie, rassurez-vous, mais tout d'abord pour aller à la messe et ensuite me recueillir quelques instants sur la tombe du héros.
Des fidèles gaullistes, forces françaises libres, témoignent aussi.
Le marxiste-léniniste que je suis s'incline respectueusement sur les très simples obsèques d'un très grand Français, dont le dévouement d'une intégrité totale et d'un exemplaire désintéressement à une certaine idée de la France écrase et accable tous ceux qui se sont servis de son nom, de son épopée et de son œuvre dans leur cupide course aux honneurs et aux profits.
Compagnon de la Libé apprend la mort de De Gaulle au fond de la Pampa du Venezuela. Avant même que le gouvernement ne donne l'ordre de mettre en berne le drapeau, la maîtresse d'école en prit l'initiative.
J'ai été, madame, un de ses premiers fidèles en tant qu'engagé des forces françaises libres en novembre 1940. C'est pourquoi moi et ma femme étions présents le 12 novembre à Colombey. J'ai estimé qu'ayant répondu à son premier appel du 18 juin, il était normal que je réponde aussi à son dernier appel.
Charles de Gaulle est profondément marqué par son éducation, par les valeurs familiales, le catholicisme légitimiste, le goût des études et du service de l'État. Très tôt, son père, Henri de Gaulle, lui fait découvrir les œuvres de Maurice Barrès, Henri Bergson et Charles Péguy. Jeanne de Gaulle est davantage passionnée de politique. Dès la première page des Mémoires de guerre, Charles de Gaulle rend hommage à sa mère, admirée, qui portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse, a-t-il écrit. Les lettres comportent de nombreux témoignages imprégnés d'une profonde piété, à l'image de l'époque et tout comme celle du couple de Gaulle.
De toutes parts, on m'a dit ce matin qu'un homme comme le général de Gaulle ne devrait pas mourir. C'est hélas la loi de Dieu, ce Dieu devant lequel il se trouve maintenant et qui lui accordera, j'en suis persuadé, la paix.
De Gaulle est le type de laïc chrétien, à la fois dans la valeur de sa vie privée et dans cet esprit de service, de don total de soi-même, qui l'a poussé à un degré héroïque, au service non seulement de la France, mais de Dieu. Cela me paraît être de l'ordre des choses qui peuvent être considérées comme relevant d'une certaine sainteté.
Mon mari et moi sommes âgés de 73 ans et souffrons du cœur, ce qui nous oblige seulement à de petits déplacements, sinon nous aurions été à Colombey. Le général fera partie des âmes pour qui nous prions tous les soirs. Et le 22, jour de son anniversaire, nous avons demandé et obtenu une messe pour lui à 11h. Nous prierons aussi pour que Dieu vous donne la force de supporter votre grande douleur.
J'ai demandé des messes à la paroisse. La première sera dite ce matin même, car je tenais beaucoup à cette date du 22 novembre. J'ai préparé et distribué 1000 invitations afin d'associer le plus de personnes possible à cette prière commune. J'ai contacté les médaillés militaires, les anciens combattants, et tous les drapeaux seront dans le chœur avec la croix de Lorraine. Aux quatre coins de la ville, des voitures seront à la disposition des personnes âgées ou pouvant difficilement se déplacer. La prière universelle, lu par un religieux fervent admirateur de notre vaillant défenseur, sera celle qui a été dite à Colombey le 12 novembre. Un de mes fils a enregistré sur son magnétophone la messe à Notre-Dame et l'émouvant adieu de Colombey. Le deuxième dimanche de décembre, nous irons prier sur la tombe de notre chef vénéré.
Chère madame, la mort du général de Gaulle m'a bouleversée. Et c'est avec une profonde émotion et un pieux recueillement que j'ai suivi, à genoux et en sanglotant, toutes les cérémonies qui se sont déroulées en hommage pour le plus grand Français que la France a perdu.
Madame la Générale, pendant 3 veillées vers notre général, j'ai prié et dans les images de télé, souvent à genoux sur les dalles, je priais et mes larmes coulaient respectueusement. Il était la vie d'un saint. Et je pleure encore.
J'avais écrit au général après le 29 avril 1969 et j'ai eu la grande joie de recevoir une réponse de sa main. Cette dernière, je l'ai mise sous verre et en bonne place, sous la croix, à côté d'une vierge, au mur de ma loge.
Depuis 1940, je prie à la messe pour le général.
Dans le monde entier, des messes se sont dites à la mémoire de Charles de Gaulle. Ainsi, à Paterson, aux États-Unis, sera donnée une messe quotidienne durant un an. De même, à New Rochelle, toujours aux États-Unis, 25 messes seront données dans l'année. Une messe de requiem en l'église du Sacré-Cœur de Jésus de Pondichéry sera animée par l'Association de l'Union des Invalides Militaires Français de l'Inde. Une sœur écrit
« Les 50 000 messes et plus offertes à Dieu pour le bonheur éternel de sa grande âme me permettent de le voir dès maintenant près de Jeanne d'Arc et de Saint-Denis. »
Un abbé déclare « Dès que j'ai appris la mort du général de Gaulle, j'ai célébré la messe pendant 9 jours consécutifs à son intention. » De nombreux témoignages de sœurs et de congrégations affluent.
Toutes les fillettes et les religieuses se souviennent de votre passage lors du lancement du paquebot France.
L'institution de la Chartreuse à Auray témoigne. Le général de Gaulle a tant fait pour nous, tout particulièrement après le terrible incendie que nous avons vécu en septembre 1968.
Le 6 juin 1964, notre maison d'enfants déficientes mentales avait le plaisir de vous accueillir, car vous veniez incognito pendant que le général était à Bayeux pour commémorer le 20e anniversaire de la libération de la ville.
Notre maison, qui a eu l'honneur de recevoir votre visite et de bénéficier à cette occasion de votre générosité, nous n'oublierons pas le geste délicat de votre visite à Notre-Dame de Pitié de Landerneau, où les sœurs de notre congrégation se dévouent près d'enfants débiles.
Nous terminerons cette émission par cette surprenante description de la messe à Notre-Dame, sorte de poème avec mots en couleur d'une convalescente au château de Parçay qui a assisté à la retransmission télé de la messe à Notre-Dame.
Adieu de Gaulle. L'écran me brûle les yeux, les doigts, le cœur. Dans quelques secondes, tu ne seras plus devant nous qu'un bouquet de pensées au marbre d'un cercueil. L'église est là, devant moi, et j'entends dans un douloureux écho la voix des orgues. Des pavés humains s'écrasent dans les rues, sur les vitres, le long des murs, sur les stalles, dans les bancs. Les grands, les petits, les pauvres, les riches, les rois, les ministres, les ouvriers, tous se pressent comme des abeilles assoiffées dans la ruche bourdonnante de la cathédrale, cachant dans leurs mains pleines la douleur des tiens. Le prêtre monte à l'autel, emportant en ses palours toute l'amitié qui s'exhale d'un monde souffrant. Bach est là. Sa musique exhorte au recueillement, invite à se retourner vers la prière ceux qui depuis longtemps avaient dû oublier le chemin de l'Église. La souffrance perce de son dard aigu et douloureux le cœur de tes compagnons de combat. Le cardinal Marty revêt les ornements violets. Il n'y a plus de cardinal, seul reste un homme qui tant de fois avait bu l'eau claire de ton regard. Le peuple entame le requiem, un frisson d'angoisse parcourt les voûtes. Notre-Dame de Paris n'est plus qu'une mutilée, une femme comme les autres qui hurle sa souffrance à travers d'autres femmes. L'homélie glisse comme un baume sur le visage creusé de cet homme si simple, si confiant. Lui qui a tant aimé la France. Le Kyrie s'étale comme une pluie d'amour dont les gouttelettes cristallines réconfortent les cœurs déchirés et tombent sans bruit dans l'épi de leurs tourments. Entends-tu, toi qui resteras toujours parmi nous ce que l'on dit de toi, qui nous a tant servi? Ah, si tu les voyais tous, ces pauvres soldats qui ont combattu à tes côtés, dont tu as serré les mains, ceux dont tu as écouté la plainte, ceux dont tu as retiré le fer des plaies béantes. Ils sont là, tous vivants et morts, te crient merci. Mais pourquoi n'as-tu pas voulu qu'ils déploient leur manteau d'apparat? La voûte a voilé son regard. Les murs suintent un lourd, un muet, un terrible chagrin. la messe égrène son chapelet au buis moiré. Kyrie eleison, les cierges se consument lentement comme à regret de devoir s'éteindre bientôt. S'éteindre, comme toi. Offertoire, la fleur s'est ouverte, ses corolles exhalent un parfum lourd qui déchire les drapeaux. Notre Père à tous, des gerbes de lèvres meurtries jettent ses mots sur les parvis attristés. Le Seigneur est saint, saint d'avoir suscité un homme tel que toi, un homme qui luttait sans se plaindre, souffrait sans le dire, aimait sans le savoir. Vois-tu cette coupe tendue, pleine du sang de tes soldats mêlés à celui du Christ? Elle bouillonne encore, émue d'ardeur belliqueuse, sous les veines de ceux qui seront bientôt des hommes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais nous n'avons pas faim. Et aujourd'hui, dans nos bouches amères, ce pain aurait un goût de cendre. Au cœur d'un ciboire d'or, des doigts, taisant leur douleur, cueillent des pétales de neige pour adoucir les épines qui déchirent. La douleur des milliers d'êtres est là, dans une église parisienne étouffante et cruelle. La cathédrale se vide lentement, fuyant avec son cortège de peur, de vide, de peine, qui seront sous le feuillage du regret les seuls bouquets que le monde entier jettera à tes pieds, saturés d'amour et noués par l'angoisse d'un ruban étroit et noir comme le charbon tiré de la douleur humaine. Sous l'ombrage entourant cette marée mouvante, flotte l'image d'un long cercueil où dort ton dernier, ton plus cher souvenir. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes inspiré des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Nodufour et les éditions de la Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle, ainsi que Sibyl Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courtois.